I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
C'est la Fashion Week.
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those? Dior clothes.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know?
That's all.
Hello Iris.
Hello.
Comment ça va?
Ça va bien et vous?
Ça va top.
Très bien. On est très content de te recevoir.
Bah, merci de me recevoir, je suis contente d'être là aussi.
Grand plaisir.
Ça fait longtemps qu'on doit le faire en plus.
Ouais.
C'est clair.
On
grave.
Se parle, on se
ça
parle.
Y est, on y est.
On y est, c'est le moment. Beaucoup d'attentes.
Ouais.
Je vais pas te mettre la pression, mais il y a beaucoup d'attentes.
Ça va aller.
Non, du coup, je te disais, tu connais un petit peu le format de l'épisode, c'est hyper biographique, ça se veut inspirant pour la jeunesse.
D'ailleurs, et j'en profite.
Allez.
Tu sais ce que je vais dire.
Ouais.
Ceux qui écoutent le podcast et qui ne savent pas qu'il est aussi en vidéo, il est en vidéo sur Spotify. Ah ouais, c'est la minute, c'est comme ça. Il est en vidéo sur Spotify si vous ouvrez l'appli et il est en vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, vous abonner et tous les trucs de cloche de je ne sais quoi. Voilà, ah, c'était l'instant promo, let's go.
Ouais, donc je te disais, tu connais un peu le format. On commence au berceau, à l'enfance, où est-ce que tu as grandi, le cadre familial, tout ça, et après on déroule.
Allez. Bah, du coup, moi je m'appelle Iris, ouais. J'ai grandi dans le sud de la France.
Ah, j'étais sûre qu'il y avait un truc sud de la France,
bien
je
sûr.
Sens la vibe
bien
sud
sûr.
De la France.
Ouais,
où
oui.
ça
J'ai grandi à Avignon, je suis née à Arles. J'ai fait mon primaire, collège, lycée à Avignon. Mm. Et ensuite, je suis montée à Paris.
Team bon élève ou team cancre?
Très très bon élève. Non,
ah.
Très mauvais élève au collège.
Ok.
Niveau comportemental, on va dire. Et je me suis
attachée
dans...
C'est quoi la story? Attends, c'est quoi la story?
Collège, j'étais dans un collège un peu compliqué. Mmh. Je me suis un petit peu...
Encanaillée.
Ouais, avec des mauvaises personnes.
Mmh. C'est toujours la faute des autres.
C'est toujours la faute des autres.
C'est toujours vraiment. Les mauvaises fréquentations. Mais est-ce que nous-mêmes, on est les mauvaises
ouais.
fréquentations de quelqu'un? C'est ça la question.
C'est clair. Et après, je suis allée au lycée. Premier lycée très compliqué. Mais là, c'était pas ma faute. Harcèlement scolaire.
Wow.
Ouais, c'est parti assez loin. Du coup, j'ai dû changer de lycée. Je suis passée dans le privé.
Ah ouais, mais c'était quoi, genre des meufs qui étaient bully ou
ouais,
un mec
groupe,
ou
un groupe dans ma classe.
Ouais, okay.
Un groupe dans ma classe. Et à ce moment-là, j'étais un peu fragile psychologiquement, on va dire. Mmh. Et du coup, je pense qu'ils ont capté
la
les
faille.
Bullies, c'est ça qu'ils sentent, hein, de toute
tu
façon.
Vois, c'est
un truc de ouf.
Voilà. Et du coup, j'en ai parlé. Ma mère m'a pris au sérieux directement. Contrairement au corps enseignant, ça a été vraiment compliqué. Et c'était une époque où on n'en parlait pas, en fait.
Ouais, c'était tabou pendant
ouais.
longtemps. Hein.
Ouais, ouais, il n'y avait pas
ouais.
tout ce truc de bullying,
non,
cyberbullying.
C'est clair. Et là, maintenant, c'est trop bien parce qu'on en parle enfin. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ça arrive encore trop, ça ne devrait pas arriver.
En plus, maintenant, ils ont le cyberbullying, c'est
ouais,
ça qui est
ça.
Bien.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est que moi,
ça,
genre, ma génération, tu te mangeais la misère à l'école, mais t'avais tes week-ends, tes soirs.
Ouais,
c'est
ça.
Snapchat, TikTok.
Ouais,
truc,
ça continue tout le temps. En
ça
fait,
s'arrête
c'est
jamais.
En permanence.
Pas de répit. C'est,
ah ouais,
c'est pire,
forfait, forfait soirée,
ouais, ouais.
week-end.
Non,
ouais.
moi, c'était en face à face, quoi. Mmh. Tu vois, mais des trucs de. Du coup, c'est parti même en
mais
violence.
Quoi, genre parce que t'étais la nouvelle, c'est quoi
non,
le truc?
Non, pas forcément. C'était un groupe de personnes qui, je pense, étaient très mal dans leur peau.
Ouais.
Et qui avaient besoin d'un bouc émissaire.
Mmh.
Et du coup, ils sont un
on
peu tous mis sur moi. Et surtout, c'était très compliqué parce que j'avais fait remonter déjà à l'infirmière du lycée qui me disait qu'elle me comprenait, etc. Mais en fait, à aucun moment, elle avait appelé ma mère pour lui dire « il se passe ça, il se passe ça ». Les profs voyaient des choses. C'était un lycée où c'était un peu compliqué, on va dire, parce qu'ils avaient eu des élèves d'un autre lycée qui avait fermé, du coup il y avait des cours dans des préfabriqués, etc. Donc le cours enseignant était complètement dépassé, on va dire.
Ouais.
Et en fait, c'est parti tellement, tellement loin que un jour, je faisais que des crises d'angoisse, des crises de spasmophilie, etc. etc. et juste à celle de trop, on va dire.
Mmh.
Et ils ont appelé les pompiers, etc. Mon père et ma mère sont venus et c'est là où j'ai un peu... tout déballé,
ouais.
on va dire. Du coup, ma mère était très en colère parce que
ouais,
tout le monde était au courant, quoi. Il y avait des trucs...
C'est quand même une responsabilité en tant qu'enseignante, tu vois. T'es pas juste là pour faire des cours, quoi.
Surtout que l'année d'après, si je dis pas de bêtises, ou 2 ans après, il y a une fille dans le même lycée qui s'est suicidée à cause de ça.
Oh, c'est horrible.
Donc...
Non, mais ça va très très loin, cette histoire, en vrai.
Donc voilà.
T'es comme tu dis, t'es jeune, t'es pas encore...
Et puis en fait, ça définit un peu ta confiance en toi. Tu vois, parce que t'es un peu réduit à ça et c'est un moment de la vie qui est difficile parce que tu te construis.
De ouf.
Et à travers le regard des autres, notamment. Mm. Et du coup, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, même encore aujourd'hui. Quand je suis en groupe avec des gens, je me sens pas forcément à l'aise, quoi.
Ah ouais?
Ouais. Ouais, ça m'a... Ça marque. Ça commence à aller mieux, on va dire, parce que je travaille dessus. Je voulais pas m'y confronter, je pense, pendant
longtemps. Ouais, t'as mis sous le tapis longtemps. Un petit peu.
Ouais, mais il faut, en vrai, il faut se confronter à ces traumas.
Ouais.
Je pense, en tout cas, que c'est comme ça qu'on
guérit. Il faut une certaine maturité, un certain courage pour le faire, hein. C'est ça le truc. Hein.
Complètement. Bah, tu vois, ça m'a pris des années.
De construire autour et de vivre avec, quoi.
Ouais. Mais je pense que le fait que maintenant, on en parle... dans le débat public, etc., ça donne, tu
ça rassure un peu, hein, aussi.
Je suis pas toute seule, bien sûr, hein. Et c'est ça qui est malheureux. Tu te rends compte que ça arrive à tellement de gens que voilà, quoi. Et du coup, deuxième lycée, ça se passe hyper bien.
Ouais.
Donc là, je rentre dans le privé. Renaissance totale. Et en fait, moi, je suis d'une famille croyante, catholique.
C'est quoi les origines? T'as des origines chrétiennes?
Alors, oui, du côté de mon père, c'est un peu flou sur certains aspects.
Ouais.
Ma mère espagnole et mon père, il y a de l'Italie, de l'Espagne et de Cuba également.
Ok.
Voilà. Full latino.
Ouais, grave.
Et en fait, du coup, ce deuxième lycée, c'est un lycée jésuite.
Ouais.
Et là, on va dire que... alors, j'étais déjà allée à la messe, j'ai été baptisée, etc. Mais ça a été une révélation pour moi. Parce que... Et c'est un peu ça qui m'a sauvée. Parce que du coup, je me suis réfugiée dans quelque chose où ça m'a fait, on va dire... pardonner un peu ce qui s'était passé avant, etc. Et ça a été vraiment salvateur
pour moi.
Et en fait, là, je me suis vraiment révélée, on va dire, dans ce lycée. Je suis en train d'en appliquer. Okay. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose dans la création.
De créatif,
toujours. Enfin, pour moi, c'était inné, tu vois.
Tu dessinais quand t'étais plus jeune, ou des trucs comme ça?
Ouais, okay. J'adorais dessiner tout le temps. Enfin, c'était vraiment... Tu sais, c'était une évidence, tu vois, je me voyais pas faire autre chose, et encore plus la mode, pour moi, c'était ça, quoi. Tu vois, dès petite, ça a toujours été ça.
Mais ça se traduisait comment quand t'étais plus jeune, du coup?
Oh, je volais les fringues de ma mère, des fois je les découpais pour faire des trucs. Mais c'était... Puis j'étais passionnée, tellement passionnée, que je faisais que lire des magazines, lire des livres, enfin... C'était vraiment ma passion.
Toute jeune, la passion pour la mode, quoi.
Ouais. Okay. Je voulais rien faire d'autre.
Mais ça passait vraiment par le vêtement, plus que par l'image,
par le dessin aussi beaucoup.
Ouais,
okay. Ouais, le dessin, je passais ma vie à dessiner des silhouettes, des femmes, tout le temps des femmes, jamais des hommes. Mais des femmes allongées, tout ce que je voyais, tu vois, les mannequins les silhouettes de l'époque. Et ma mère, je me souviens, elle me disait que voilà, j'allais finir dans la mode. Mais tu vois, à un moment, je me disais peut-être journaliste. Peut-être journaliste, mais en fait ça m'a vite... j'ai compris que ce qui m'intéressait dans le journalisme, c'était les magazines de mode et pas le journalisme pur.
Donc l'image.
Pure, l'image. Ouais. Ouais, clairement.
Ok.
Et
donc tu as une petite révélation au lycée.
J'ai des trop bonnes notes, hyper bon élève, top.
Okay.
Top, des profs géniaux, c'était
une toute
vraiment...
autre expérience de l'éducation nationale.
Complètement.
Pour le coup.
Ah mais j'ai adoré. Enfin, ça me manque vraiment, alors que tout ce qu'il y a eu avant, même le primaire, c'était dur, le collège, c'était dur. Parce que tu sais, dans le sud, t'as des petits villages, t'as des guerres entre petits villages.
Je ne serais pas comme ça.
Cette histoire,
tu vois, par exemple, ma mère, elle était instite dans un village.
Ah,
et
okay.
Nous, on habitait dans un autre village.
Mm-hmm.
Et du coup, moi, j'étais scolarisée dans l'école où elle enseignait.
Mm-hmm.
Et Du coup, je venais pas de ce village. Et du coup, les élèves, te rejettent parce que t'es pas du même village. Donc tu vois, ça a commencé
même
quand même.
C'était genre Cannes contre le Canet, contre Valoris, Nice, on en parle même pas, tu vois, c'est genre...
Il y a des petits, tu vois, des clans.
Territorialité à mort.
Ouais.
Tu t'attaches à ça quand t'as rien d'autre, en fait, tu t'attaches à un pseudo truc qui a aucun sens, quoi.
Non, c'est clair. Et du coup, enfin, même, tu vois, le harcèlement, ça a commencé en vrai de vrai
pour ça,
jeune, tu vois. Ah oui, parce que tu vois, on t'invite pas forcément aux anniversaires, on te rejette dans les groupes. Enfin, il y a eu des trucs.
Ah ouais.
Même, c'était au primaire avec des enfants, tu te dis, mais ils sont méchants, quoi.
Ouais, mais les enfants, c'est le plus dur. Hein.
Ouais.
Ça peut être très très méchant.
Tu sais, je me souviens encore de situations où t'es là, enfin, ça te marque, quoi.
Ouais.
T'oublies pas ce qui se passe quand t'es enfant, quoi. Donc,
Ouais, parce que c'est hyper violent, en vrai. Un enfant, tu vois, c'est hyper cash dans les propos, c'est hyper cru, c'est dur.
Pas de limite.
Ouais, pas de limite, ouais.
Puis c'est in your face, quoi. C'est genre, ah, t'es moche.
Ah ouais, c'est. Vas-y, prends-toi ça, quoi.
Ouais.
Donc,
du coup, tu passes le bac, tu l'as.
Je passe le bac et en fait, l'été de ce bac-là, je suis dans ma chambre, je me souviens. Je me fais chier et je prends tous mes magazines de mode et je vais tous les appeler pour voir si je peux faire un stage d'observation. J'appelle tout, Vogue, Marie Claire, tout. Tout le monde me, soit ne répond pas, soit machin. Et l'EL me dit ouais, ok.
Ah ouais?
Donc je suis là, ok.
On adore le culot.
Ouais, c'est dinguerie.
Ouais, non, mais ça, le culot, c'est ma ligne directrice, on va dire. Alors que, en vrai de vrai, ça se voit pas forcément, je suis hyper timide.
Mm.
Hyper timide et hyper. Quand j'étais gamine, j'étais assez renfermée, tu vois.
Ouais.
Et des fois, j'ai des moments comme ça d'audace et.
La passion est trop grande.
Ouais, tu vois. Et c'est ça qui, je pense, fait.
Hyper quoi.
Ouais, vraiment. Et du coup, j'appelle, ils me disent ouais, il faut une convention, machin. Je me souviens, je descends les escaliers, je dis à ma mère, maman, faut que je monte à Paris, je fais un stage d'observation au OM et tout. Elle me dit,
descends juste ton nuage.
Ouais, je te jure. Donc, on organise tout ça et tout. Et je monte à Paris, je fais ce stage qui se passe en rédaction, pas en stylisme, qui se passe hyper bien. Franchement, c'était trop cool pour moi.
C'est
c'était
une institution,
un truc
le L
dingue,
en plus.
Quoi.
Ouais.
Bah, ouais. Surtout à notre époque.
Ben ouais, en plus tu viens du sud. Enfin, tu vois, c'était.
Ouais.
Tu vois, moi je venais à Paris de temps en temps en famille, tu vois, pour aller voir les musées, ce genre de trucs. Mais tu vois, j'étais pas forcément familière avec Paris. Donc là, c'était vraiment tout nouveau. J'avais un pote qui m'avait logé et tout, qui vivait à Paris à ce moment-là et tout. Ça se passe trop bien. Ensuite, du coup, je commence l'école de mode.
Mmh.
Je rentre à l'atelier Chardon-Savard.
À Paris, du coup.
À Paris.
Okay.
Et c'est super compliqué.
Mais parce que tu fais ton dossier, du coup, c'est bien.
Ouais,
c'est un dossier d'entrée.
En fait, c'était quand j'ai fait le stage d'observation, c'était entre la première et la terminale.
Okay.
Donc, tu sais, j'ai refait une année. Enfin, j'ai passé mon bac dans le sud, et c'est après que je suis rentrée à l'école en octobre.
Mais direct en post-bac, du coup.
Direct en post-bac.
Ok, t'as pas besoin d'une mise à niveau.
Non,
je sais
parce
qu'en art
appliqué, t'as pas besoin de faire la mana. Ouais, la mana, c'est la mise à niveau quand t'as pas fait une école avec une spécialité. Ouais. Donc, ça se passe mal. Enfin, c'est pas que ça se passe mal, mais. C'était dur, quoi. C'était pas le travail qui était dur, c'était pas parce qu'on travaillait beaucoup, beaucoup, et ça, en art appliqué, en fait, tu bosses, quoi. Tu fais
des
t'as tes matières générales et t'as toutes tes planches à faire, tu vois, pour toutes tes matières créa, on va dire.
Mmh.
Et ce qui était trop bien avec l'art appliqué, enfin, c'est vraiment une section que moi, j'ai trop, trop aimé, c'est que tu touches à plein de choses. L'architecture, les films, l'histoire de l'art, la mode, enfin...
C'est hyper complet.
Ouais. Et c'est là que j'avais découvert Alexander McQueen et Issey Miyake. Mmh. Et ça m'a... C'est vraiment... Alexander McQueen, c'est vraiment... C'est iconique pour moi.
Ouais.
C'était la claque de toute une génération, en vrai. Hein.
Ouais, complètement. Ça a été vraiment...
Inspiration de tellement de personnes, tellement de designers, tellement de gens qui font de l'image.
C'est dingue. Et puis tu vois qu'en fait, et c'est ça que j'aime avec lui... C'est le fait qu'il puisse pas forcément son inspiration première dans la mode, c'est dans tout ce qui l'entoure, tu vois. Tellement avant-gardiste sur tellement de choses, tellement inspirant. Enfin, tu vois, même, il parlait de sujets où on voulait pas en parler dans ces années-là, de la nature, de l'écologie, du corps de la femme dans la mode, de tout ça, c'était... Et j'étais là, mais ouais, ok. Enfin, c'est ça qui me donne envie de...
Tu ouais, vois, de poursuivre dans la discipline. Voilà.
Et du coup, c'était en art appliqué, j'avais fait un sujet sur lui, donc je m'étais renseignée, etc. Et ça avait été une révélation de dingue. Et du coup, je rentre en école de mode. Et ouais, c'est compliqué parce que déjà, tu sens la compète hein, entre les élèves et tout. Ouais. Tu sens que...
Ah, c'est ça l'ambiance, genre.
Ouais. Okay. Ouais, et tu sens que tu viens pas de Paris, quoi. Je l'ai senti direct. Ouais. Genre, je me suis forcée à cacher mon accent. J'avais un accent assez prononcé à l'époque, un accent du Sud. Et je me souviens que j'avais un prof qui m'avait dit « Ah ouais, toi, t'es vraiment la cagole du Sud. »
Mais
j'étais là, oh, non.
Nice. Ouais, good vibes.
Déjà, t'as un espèce de complexe d'infériorité parce que, tu vois, t'as plein de personnes en école de mode qui sont là, et dans beaucoup d'écoles, de manière générale, tu vois, qui sont là parce que, ouais, on aime bien, mais... Enfin voilà, tu vois, au final, moi.
C'est
dans...
la petite ride parisienne de bon, on est atterri
ouais,
là parce que c'était dans
Chanel
le quartier
et Dior et let's go, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, dans ma promo, au final, on est très très peu à avoir continué en tout cas de travailler dans la mode parce que je suis un petit peu, tu vois, les anciens élèves et tout. Mais déjà, c'est hyper compétitif comme milieu et tu le sens dès l'école et tu sens que les profs. Sous prétexte que ça va être compétitif, ça va être dur dans le taf, dans le milieu dans lequel tu vas être, ils se permettent de te fracasser en fait.
Ils
nourrissent cette ambiance du
coup. Et tu sens qu'au-delà de te préparer psychologiquement à ce que tu peux vivre après...
Il y a un peu de masochisme. Ils y prennent un petit plaisir quand même.
Sadisme plutôt du coup. Sadisme.
Ouais, j'en verse sadisme.
Mais non, mais du coup, à cette époque-là, là, la nouvelle génération est vachement plus connaît en tout cas ses droits, tu vois. Ils savent que dans le milieu du travail, ça t'a le droit, ça t'a pas le droit, on n'a pas le droit de te dire ça, etc.
D'accord.
Enfin, nous, à ce moment-là, tu te plaignais, t'es viré, et puis il y a plein d'autres gens derrière qui veulent prendre ta place, quoi.
Ouais. Et ouais, c'est un peu ce truc dans la mode de se dire, ok, remercie-nous déjà d'être là, quoi.
De ouf.
Si t'es pas content, il y en a mille derrière.
C'est
donc,
ça.
Ferme ta gueule.
C'est ça, tu vois.
Et les stages après, c'est pareil, tu ressens un peu la même énergie.
Non, on va en venir, tu vas voir. Mais non, et du coup, voilà, donc il y a ce truc hyper compète, machin. Tu commences par du modélisme, en fait. Moi, je me suis spécialisée en communication de mode après, parce que je savais que je voulais pas faire des vêtements, que c'était pas dans ça que j'ai été bonne. J'avais été prise à Dupéré.
Ouais.
Et justement, Dupéré, pour moi, c'était trop textile. Dans ce que j'avais, et moi c'était vraiment la spécialité communication de mode qui me faisait de l'œil. Et en fait j'ai été très vite frustrée à l'école. J'arrivais pas à projeter l'après quoi, ça me faisait hyper peur. Je me disais mais du coup là après on va avoir notre diplôme et...
Je fais quoi ?
Et je fais quoi en fait ?
Et c'est quoi la frustration ? C'est qu'on ne te prépare pas à l'après ou c'est...
Ouais, c'est que déjà, t'as tout l'aspect, administratif et tout, tu vois. On ne te dit pas forcément, tu peux être en freelance, tu peux être en CDI, tu peux machin, il faut que tu développes ton carnet d'adresse. Il faut que, à ce moment-là, tu vois, les réseaux sociaux, c'était pas un truc...
informatif.
Ouais, et en plus, tu développais ton carnet d'adresses avec les soirées, en réel. Alors que maintenant, tu vois, t'as une présence digitale, entre guillemets, c'est plus facile, tu vois.
T'as un DM de n'importe qui, quoi. En vrai.
Ouais, et puis tu peux tout le temps poster ton travail, tu vois, t'as plein de plateformes où le diffuser, enfin, c'est génial en vrai. Alors qu'à ce moment-là, il n'y avait pas forcément. Il y avait Facebook, quoi. C'était le début d'Instagram, je crois. Ouais. Et du coup, donc je suis frustrée à l'école. Franchement, je suis trop frustrée. J'ai pas l'impression que j'apprends les choses que je veux apprendre. Donc je me dis, bon, va falloir que tu bosses à côté, en fait.
Okay.
Donc voilà. Et en fait, donc je fais ma première année. Et en fait, à la fin de ta première année, t'as un défilé. Où tu présentes une tenue que t'as faite, etc. Et je savais qu'un des mecs du jury, c'était Brice Compagnon.
qui est un grand casting directeur.
Voilà, c'est ça. Et moi, le WAD, c'était le magazine qu'il avait à l'époque, ouais, avec Bruno Collin. C'était mon goal de ouf.
Okay.
C'était vraiment, je veux faire ça, ça me parle trop, les valeurs que ça représente, le fait de mélanger du luxe avec du streetwear, enfin, tu vois.
Mais c'était tellement avant-gardiste.
Tellement avant-gardiste.
Ouais. Et puis c'était le seul truc culture et mode. Enfin, ouais, ils avaient vraiment leur créneau à eux.
Complètement.
Ouais.
Ouais. Et en fait,
c'était génial.
Avant ça, du coup, j'ai loupé un épisode, mais avant de rencontrer Brice, etc., j'ai refait un stage OL,
okay,
qui a duré plus longtemps, où j'assistais une styliste. Et ça s'est pas bien passé, dans le sens où je me suis dit, ah ouais, c'est... En fait, t'as... Donc déjà, l'école, c'était dur. Et là, tu rentres dans un magazine. Donc là, c'était pas le même stage d'observation que j'avais fait. Hein. Là, c'était vraiment en mode assistée. Ouais, charbon. Et assistante de vie, limite, tu vois. Genre, tu fais pas d'heure, elle peut t'appeler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, du week-end, etc.
En fait, ce qui est horrible avec ça, de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est que toutes ces stylistes aujourd'hui, elles ont été maltraitées en tant qu'assistantes stylistes.
Ouais.
Et souvent, elles maltraitent leurs stylistes en disant, bah oui. C'est le passage obligatoire. Moi, j'en ai chié, donc toi, tu dois en chier. C'est une forme de préparation, un peu le truc de padawan.
C'est clair. Ah ouais,
de toutes les histoires d'assistants de stylistes que j'entends, genre, c'est toujours la même histoire.
Parce que moi, je me souviens que du coup, on était plusieurs assistantes et stagiaires. Et enfin, tu vois, on le vivait hyper mal. Alors, t'avais des stylistes qui étaient hyper cool, trop top, tu vois. Et t'en avais d'autres qui ne l'étaient pas forcément. Et en fait, j'ai remarqué ce truc de... je me suis dit, c'est cool là que t'aies ce job et tout, parce que quand tu vas sortir de l'école, peut-être... Enfin, tu vois, je me projetais peut-être, tu vois, y revenir après, assistant free ou quoi, etc. Sauf que, tu vois, on en revient à ce truc de tout à l'heure où tu te dis, tu te plains pas, tu te tais et tu t'encaisses parce que, comme tu dis, tu vois, t'en as 10 000 derrière qui veulent être à ta place. Mm-hmm. Et en plus, tu vois, nous, on est matrixés au film Le Diable s'habille en Prada. Enfin, tu vois, t'es en mode genre en magazine de mode et tout.
Ouais, mais cette
pour
culture.
Le coup, c'était vraiment ça. C'est, ouais, j'étais une serpillère, quoi, tu vois.
Mm-hmm.
Et tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui regarde d'un très mauvais œil les jeunes personnes qui arrivent, qui peuvent potentiellement, tu vois, les remplacer. Et tu le sens et tu te dis, mais en fait, il y a un plafond de verre. Enfin, tu vois, tu pourras pas t'exprimer. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas encore, tu vois, l'angle, comment dire, exprimer ma personnalité dans mon travail, tu vois. C'était, tu vois, très superficiel encore, comment dire, ma vision de ce milieu-là et tout, tu vois. Et du coup, je me rendais compte quand on faisait des séries que c'est hyper normé. T'as beaucoup d'annonceurs. Tu dois les placer dans toutes tes séries. Ouais. Du coup, des fois, tu te retrouves avec des total look full annonceurs. Donc, en niveau créativité...
On est proche du néant.
On est proche de l'habilleuse, comme on dit.
Tu vois. Et du coup, j'étais là. Enfin, c'est quelque chose que... C'était hyper formateur parce que tu découvres plein de choses. Tu te dis, ah ouais, ça marche comme ça, ok. Enfin,
grave.
Donc, et surtout...
T'apprends à faire les retours.
Voilà, t'apprends à faire les retours. Mais là où j'avais de la chance, et c'est là où WAD, après, ça a été, t'es dans le dur, c'est que OL, t'as un service coursier, tu fais tes sacs et
ça
part, tu vois.
Okay, ça va.
Donc, t'as ce truc où t'es quand même... C'est hyper cadré, t'as des moyens, t'as du budget pour faire tes shoots, enfin, tu vois. Donc, t'es dans... Enfin, pas moi personnellement, mais les stylistes, en tout cas, à ce moment-là, sont dans une espèce de zone de confort parce que toutes les marques te prêtent, parce que t'as des annonceurs, c'est le L, tu vois. T'as tout le temps des top mannequins, des top photographes.
Ouais, c'est plutôt confortable.
C'est plutôt confortable, mais du coup, j'étais là, mais en fait, si tu sors pas de ta zone de confort, enfin, au bout d'un moment... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est ça qui est intéressant dans nos milieux et tout, c'est sortir de sa zone de confort. Mm-hmm. C'est ça que je recherchais. Donc là, je me rends compte, donc, ça se passe, enfin, c'est dur, mais je me dis, non, il faut trimer, quoi. Et en fait, en parallèle à ce moment-là, j'ai des soucis familiaux et un problème de santé qui nécessite que je sois hospitalisée un ou deux jours.
Okay.
Donc j'appelle la CIS que j'assistais, je lui dis, et je voulais pas lui dire ce que c'était, et elle m'a forcé à lui dire, et elle m'a engueulée de ouf. Et elle m'a dit, ah ben non, tu reviens, je veux pas savoir et tout. Et là, ça m'a foutu une claque, parce que moi, déjà, personnellement, je vivais un truc un peu difficile, et je me suis rendu compte que...
Pas d'humanité.
Ouais, t'as pas de place pour ça. Enfin, en tout cas, là où j'étais, tu vois. Donc, je me suis... Enfin, tu vois, j'étais là, ah ouais, c'est dur, quoi. T'es toute seule à Paris. T'es en train de réaliser un rêve. T'es dans une grande rédaction et tout. En fait, tu te rends compte que c'est encore plus dur que ce que tu pensais, parce que je m'étais grave préparée, tu vois, à ça. Et j'avais pas peur de bosser, etc. Ça m'avait jamais fait peur de beaucoup travailler, mais c'était plus le côté humain, justement, et tout ça, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je dis stop. Et en fait, j'ai contacté la rédactrice en chef, qui a été hyper compréhensive. J'ai eu un rendez-vous avec elle, j'ai tout raconté. J'ai raconté tous les trucs qui se passaient mal avec cette personne.
Il faut du courage quand même pour faire ça aussi.
Ouais, de ouf, c'est vrai. Et surtout que je me suis dit... Mais à ce moment-là, tu vois, pour moi, dans ma tête, c'était... Je partais.
Plus rien à perdre.
Ouais, donc j'étais juste en mode... Tu vois, et en fait, elle me dit non, mais en fait, moi, je veux pas que tu partes d'ici en ayant que cette expérience-là. Donc, je te propose d'assister d'autres stylistes. À partir de là, ça se passe hyper bien. J'assiste plusieurs stylistes, ça se passe trop bien, hyper formateur, mais dans le bon sens. C'est un autre côté, tu vois, du magazine. Donc, ça se passe nickel. Et on propose à la fin de revenir après que j'ai fini l'école et... En fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, non, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, la liberté créative, etc. Tu vois, c'était pas ma notion de la mode et ce que j'avais envie, tu vois, de...
Ouais, bien sûr.
Moi, c'est un médium, tu vois, pour faire passer des messages, pour, tu vois. Donc, bref, je continue l'école, je passe mon diplôme, etc. Et c'est là où j'encontre Brice Compagnon à ce fameux défilé. Et encore un coup d'audace. Je le chope à la fin du défilé, je dis, je veux faire un stage chez vous, je veux travailler chez vous et je partirai pas tant que je n'aurai pas.
On adore.
T'es là, mais ça va pas. Il est hyper drôle, quoi.
Ça va pas.
Ouais, il était, mais non, mais on n'a pas de place et tout. J'étais, non, mais moi je veux, c'est mon rêve. Donc je parle du magazine, je lui dis que moi, quand j'étais en art appliqué, quand je faisais mes moods, j'avais tous les watts, je les photocopiais, je faisais mes moods avec. C'était vraiment...
Graphiquement, en plus, c'était super beau l'achat de Garfield du magazine, les couvertures et tout. C'était
dingue. Franchement, t'as des gens tellement créatifs qui sont passés par ce magazine, avec qui j'ai retravaillé après dans d'autres agences
d'autres
ou quoi. Donc, c'était vraiment mon goal. Et en fait, c'était vraiment ce truc où tu mélanges du luxe avec du jean, des hoodies, des trucs comme ça. Et surtout, en termes de créa, t'as une marge de manœuvre qui est ouf. Mais ce qui m'intéressait, c'était dans un magazine indépendant, justement, où ça allait pas être les mêmes budgets de prod que OL, tu vois. Et c'est comme ça aussi que t'apprends tu galères et c'est là où t'apprends beaucoup de choses, tu vois. C'est hyper formateur. Donc,
il n'y a plus de zone de confort, il n'y a plus de coursier.
Il n'y a plus de coursier, c'est toi qui cours.
C'est toi qui cours. Les valises, tu sais, elles étaient scotchées à ma main, tous les retours et tout. Et au final, donc je le harcèle. et il me dit, je vous mets en contact avec tel styliste, peut-être que vous pouvez l'assister sur des trucs et tout. Donc il me met en contact avec Marion Brioué, pardon. Qui était en free à ce moment-là, qui faisait des séries avec Edem Dossou au WAD.
Okay.
Et
Edem,
on t'attend.
Tes jours sont comptés.
Tu as une convocation à tous les épisodes.
Je vais bien parler de lui là, en plus, en bien.
Mais tout le monde en parle en bien, il est top.
Ah ouais, ça a été. J'y reviendrai après, mais ça a été Edem.
Une révélation.
Pareil, une rencontre hyper importante dans mon parcours, tu vois. Et du coup,
vraiment, littéralement, il se prend une convocation un épisode
tous les
sur deux.
Je lui dirai, je lui enverrai, je dirai, regarde, ça parle de toi. Et du coup, je commence à assister cette fille, qui est une fille top. Enfin, franchement, elle a tellement de références en stylisme et tout. Elle est, on va dire aujourd'hui, un peu plus aussi dans le costume, dans la fiction et tout. Mm-hmm. Elle est trop forte. On a fait des projets pour Loi d'ensemble. Donc je l'assistais et on avait fait un clip de Licky Lee Gunshot où elle avait fait le stylisme et elle avait fait un taf incroyable. Enfin, elle est vraiment trop forte, donc ça a été trop top. Et ensuite j'ai assisté Edem, du coup. Pareil, Edem, moi je me disais, mais ça, des vrais stylistes, c'est ça en fait, parce
créatif
de dingue, et surtout
engagé,
c'était dur, tu
message.
Vois. Ouais, tu vois qu'ils en veulent, qu'ils ont la niaque, tu vois. Mm. Et c'est ça que je cherchais. Et tu vois que c'est des gens où pareil, ça a pas été facile, tu vois, d'arriver là.
C'est clair.
Et en fait, donc on commence à bosser ensemble. Et au WAD, t'as aussi des annonceurs qui sont pas les mêmes annonceurs que le Hello, quoi. Donc t'as des marques où tu te dis pas forcément que tu l'aurais mis dans ta série, tu vois. Donc
c'est ça la petite contrainte, le petit challenge.
Ouais, et c'est ça, je trouve, qui du coup fait le truc et qui te fait voir les choses d'une manière que t'aurais pas vu au premier abord,
ouais,
tu vois. Tu serais parti sur un look plus simple qui te vient en tête, et puis en fait, tu dois placer cette paire de chaussures.
Mm-hmm.
Ah, mais comment je peux la rendre désirable, en fait, tu vois. Et c'est là où c'est un vrai taf de stylisme, en fait, tu vois. C'est pas faire du full look d'une maison ou quoi. Donc franchement, c'était hyper bien, c'était hyper dur. Parce que je me souviens, on restait hyper tard à faire nos looks. Il y a toujours des séries qui arrivaient à la dernière minute. Tu shootes tout le temps avec des photographes extérieurs. Donc, tu dois t'adapter à des grosses personnalités. Parce que tu vois, Brice et Bruno, ils ont bossé dans les années 80 et tout, tu vois. C'était une époque rien à voir avec... différente, tu vois. Rien à voir avec maintenant. Enfin, tu vois, c'était... Les gens dans la mode, les personnalités, c'était hyper extravagant et tout. Et du coup, enfin voilà, on s'éclate avec Edem. C'est dur parce que c'est une entreprise à taille familiale, on va dire. Donc tu te retrouves à faire plein de trucs, participer au bouclage, toutes ces choses-là,
mais
trop
du coup,
intéressant,
c'est trop, bien, ouais.
trop intéressant. Et en plus, vu qu'il était directeur de casting, Brice, bah, t'as toujours des mannequins de fou pour shooter. Donc c'était hyper formateur. Et il y avait aussi Jean-Paul Paula qui travaillait au WAD à ce moment-là. Et pareil, en termes de...
À lui, en termes de créa.
Enfin, tu vois, j'ai eu trop de chance parce que c'était vraiment ça, tu vois, que je voulais. Et Edem et Jean-Paul partent du magazine pour se mettre en free, etc. Et du coup, moi, je reste. Et du coup, je reprends du coup la partie mode.
Ok.
Et c'est trop cool. Donc là, c'est mes premières séries
en
solo.
Styliste.
Voilà, en solo. Et du coup, quand j'assistais Edem, c'était à côté de l'école. Hein. Vois, j'ai commencé à côté de l'école parce que j'avais peur justement de truc de...
Déboucher, de ne pas avoir
d'expérience concrète
et tout.
Voilà. Et du coup, après, je suis restée chez eux pendant longtemps.
Okay.
C'était trop, trop bien. Mais au bout d'un moment, il y a eu le digital qui est arrivé, parce que vraiment, moi, j'ai commencé avec la presse papier pure, qui ont des codes hyper particuliers et très différents du digital. Et c'était pas les mêmes budgets aussi. Donc le digital est arrivé avec les séries sur Internet, Instagram, etc. Malheureusement, ça a été un peu plus compliqué du coup pour le magazine, quoi, parce que la concurrence
était
sévère et tout. Donc je suis partie. Et j'avais mal au cœur de partir, quoi, parce que c'était trop bien, et je suis toujours en contact d'ailleurs avec tout le monde, tu vois. Enfin, vraiment tous les gens avec qui j'ai travaillé là-bas. Là, c'est marrant parce qu'il y a 10 jours, j'ai fait une série pour un magazine et c'était avec le directeur artistique avec qui j'étais au WAD. Donc, c'est ouf parce que c'était il y a... Enfin, l'air de rien, c'était il y a 9 ans, un truc comme ça.
Ouais, mais tout le monde se recroise.
Ouais, j'aime trop. Et du coup, voilà, je suis partie. Et à ce moment-là, je faisais du free, etc. Et en fait, je me perdais un peu dans... En fait, je me suis rendu compte que styliste, justement, en sortant d'un magazine où t'es payé, etc., le freelance, c'est beaucoup de pubs, tu vois. Beaucoup de pubs, beaucoup de commerciales.
De campagnes,
et peu d'éditos à côté, parce que t'es très pris par le temps et tout. Donc là, je fais beaucoup de pubs de voitures, L'Oréal, tout ce qui paye. Tout ce qui paye, tu vois. Et je voulais de l'argent pour pouvoir financer mes éditos. Là, l'école, c'est terminé. Ouais,
okay.
Ouais, l'école, c'est terminé. Et du coup, je fais ça et tout. Et en fait, de temps en temps, je fais des éditos. Mais tu sais, ça reste, c'est pas tout le temps, quoi. C'est pas. Et du coup, je suis dans un truc où je me dis, mais.
Frustration.
Ouais, frustration. Frustration encore.
T'arrives pas à trouver une sorte d'équilibre.
Ouais, je me dis, moi, j'aimerais trop faire que de la créa, mais en fait, la réalité, c'est que.
Faut manger.
Faut manger, tu vois. Donc frustrée. Et surtout, du coup, vu que je faisais peu de créa, on va dire, à ce moment-là, tu t'éloignes. De... Enfin, tu sais, ça se pratique, tu vois, ça se bien cultive, sûr. Tu vois, la créativité et tout.
C'est comme le sport, il faut tout le temps dedans, quoi.
Tu vois, et en plus, c'est des métiers où c'est ouf parce que t'apprends tout le temps des trucs. Enfin, tu sais, t'as tout le temps des... C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de relationnel, c'est vraiment une partie hyper importante là-dedans. Et en fait, tu te rends compte des fois que tu t'épuises à faire des trucs alors que, tu vois, il y a... d'autres process pour... Et ça, tu l'apprends vraiment au fur et à mesure, tu vois. On t'apprend pas ça à l'école, tu vois, de...
De quoi tu parles quand tu dis process et tout? Qu'est-ce que...
Tu vois, toute la partie... comme tu vois, je te parlais d'administratif, tu vois, tout à l'heure. T'as un espèce de flou de... Comment je facture, comment faire une facture. Enfin, personne t'apprend à. Donc, t'as une espèce de charge mentale, tu vois, de tous les trucs que t'as à gérer en auto-entrepreneur et tous ces trucs-là. Et...
Mais ça, c'est en France en règle générale. C'est pas que dans ce milieu-là. C'est vrai que l'éducation financière et les choses qui de la vraie vie dont on a vraiment besoin, ça vient pas à l'école, quoi. Faut vraiment qu'on démerde-toi, quoi.
C'est clair, parce que tu vois, c'était. Et c'est ça que j'ai capté. Heureusement, j'ai capté à l'école. C'est que j'étais, mais quand je vais être sur un shoot photo.
Je fais quoi?
C'est quoi une feuille de route, pratique, c'est quoi un chef-op? C'est quoi? Enfin, tu vois, on te dit pas, sur un set, il y aura une personne qui s'occupera de ça, il y aura ça. Toi, tes shopping, faut que tu le fasses tant de temps à l'avance. Enfin, tu vois, t'as toute cette partie-là que t'apprends au fur et à mesure des jobs, au fur et à mesure des personnes que t'assistes. Et en plus, c'est ça qui est ouf, c'est que t'as 10 millions d'équipes différentes, donc chacun a son process de travail. Au fur et à mesure, t'apprends à savoir le tien et à mettre tes limites aussi, parce que ça, c'est pas facile, tu vois.
Pendant longtemps, surtout avec les clients.
Voilà, pendant longtemps, moi, je me faisais bouffer, tu vois. Je me mettais dans le rouge, vraiment, enfin... J'ai eu des problèmes de santé à cause de ça et tout, parce que j'étais dans un niveau de stress. Ouais. Complètement, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est à moi de mettre des limites. Et en fait, à partir
Parce que les clients, ils n'ont pas de limites. Ils peuvent te pousser dans tes retranchements les plus...
Et c'est compliqué parce qu'en même temps, tu veux garder des bonnes relations. Tu veux que ça se passe bien. Donc, tu dois mettre de l'eau dans ton vin. Et en même temps, tu dois aussi poser tes limites. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est là où on te respecte vraiment.
Ouais, c'est ça le pire.
Tu vois. Et là, je me suis dit, c'est étrange, tu vois, mais ok, mais c'est vrai que c'est là où les gens ils te prennent au sérieux, tu vois.
Ouais.
Pas en étant méchant, mais en disant non. Enfin, quand tu.
Oui, quand c'est non, c'est non.
Quand c'est non, c'est non, tu te rends compte que quand même. Donc, tu vois, moi j'étais dans une mentale où j'étais là, je disais oui à tout, depuis l'école, où tu prends sur toi, tu te dis non, mais. Faut galérer pour. Enfin, tu vois, faut trimer, faut.
Pour mériter, en fait.
Pour mériter, tu vois. Et en même temps, tu te dis, il y en a plein derrière qui attendent, donc. Enfin, tu vois.
Il faut que je saisisse ma chance maintenant.
Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette des limites et surtout que je développe aussi. Je voulais plus qu'on m'appelle juste parce que j'étais facilitante et.
Ouais.
Et tu vois.
Genre, c'est facile de bosser avec elle.
Tu vois, c'est facile, fais tout ce qu'on lui dit et tout. Et je me suis dit, non, c'est mort, genre, je veux pas ça du tout, quoi. Tu vois, je m'éloignais à ce moment-là un peu de mon rêve, de ma vision du truc.
Ouais.
Et en fait, j'en ai parlé à Edem. Et je lui ai dit un petit peu tout ça. Et il m'a dit, mais en fait, le truc, c'est que là, t'es plus connecté avec toi-même. C'est vrai que je rejetais le Sud à mort. Parce que je voulais tellement pas être catégorisée comme la cagole du Sud. T'as toujours la petite phrase qui te revient sur ton accent, sur ce que te disent tes profs à l'école ou d'autres élèves. Et il m'a dit, mais le truc, c'est que si tu te connectes pas avec tes racines et qui tu es vraiment, d'où tu viens et tout, mettre du sens dans ton travail,
ça va être compliqué.
Et pour moi, c'était trop important à ce moment-là de vraiment... Enfin, tu vois, je fais pas c'est un travail de passion pour moi. Et là, j'y étais plus, tu vois. J'étais plus dans la passion, j'étais... Voilà. Ouais, et ça m'a fait tilt de ouf. Et surtout, à ce moment-là, je me souviens que Jacques Mus, il commençait à parler du Sud et tout. Mm-hmm. Et du coup, j'étais là. Ah putain, enfin, quelqu'un, tu vois, qui parle
qui
du Sud.
Qui rend le truc un peu sexy.
Qui le rend, tu
notre
vois.
Notre ambassadeur.
Notre ambassadeur et tout. Mais du coup, ouais, c'était. Enfin, tu vois, Jacques Mus, je me suis dit, mais ouais, en fait, tu peux grave assumer qui tu es, parler de. Enfin, ça te rend riche, en fait. Tu vois.
Bien sûr.
Et en fait, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, du coup, j'ai rebasculé dans autre chose. Et je me suis fait vraiment plaisir dans mon taf. Tu vois, je suis repassée à de la créa pure. Et j'ai fait, mes plus beaux projets, c'était à ce moment-là. Et du coup, je travaillais beaucoup avec Black Rainbow aussi, qui était une agence qui faisait le lien avec les marques de luxe et la street culture. Mmh. Qui était un peu la grosse tendance du moment. Et les marques de luxe ne savaient pas parler, entre guillemets, à cette communauté, on va dire. Et du coup, ça a été. C'était un peu la suite logique du WAD, dans le sens où, tu vois, t'avais pareil ces codes mélangés. Et en fait, moi, c'est vraiment ça que j'aime, tu vois. J'aime pas quand c'est trop normé. Et je pense que tu te nourris de tout.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, tu te nourris de films. Enfin, en tout cas, la créa se nourrit de personnes, que de la mode, justement, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui que je regrette un peu, j'ai l'impression, dans ce que je vois là, des fashion week, des défilés, c'est des tendances. T'as toujours eu ce truc de tendance, mais là c'est vraiment avec TikTok, etc., c'est vraiment les maisons perdent leur essence, je trouve, tu vois, pour répondre à des tendances. Et du coup, t'as une espèce de norme que je trouve.
C'est la fast fashion qui a donné le rythme.
Complètement.
Faut que t'aies tous les jours, toutes les semaines, des nouveaux produits, des nouveaux trucs. Donc,
complètement.
Toi, t'es une maison qui fait deux collections, quatre collections par an, t'es has-been, quoi.
Bah ouais. Et du coup, t'as ce truc de. Que tu vois, quand je regarde des fois des. Tu vois, Versace dans les années 90 et tout. Enfin, chaque maison avait son identité hyper forte
hyper fort,
et propre. Et t'avais des choses différentes partout, tu vois, entre guillemets. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, quand...
C'est un peu plus lissé,
le streetwear, à un moment, j'en pouvais plus. après que Virgil Abloh soit arrivé chez Vuitton. Après, tu vois, dans les saisons d'après, je voyais tout le temps la même chose.
Ouais, c'est clair.
Et surtout, ce qui m'agaçait, c'était ce. Avec les réseaux sociaux, tu vois une info tout de suite, hop, tu tweets dessus, tu ripostes, etc., mais tu vas pas chercher derrière. Et du coup, quand je voyais des fois des trucs en mode, waouh, cette collection est trop ouf, cette pièce est trop incroyable, j'étais, mais en fait, ça a déjà été fait. Telle personne a déjà fait dans les années 90 et tout, enfin, tu vois, et ce.
Il n'y a pas ce travail d'archive,
tu vois, y a pas
de référence.
Et du coup, je le regrette un peu aujourd'hui parce que je vois des trucs passer et je suis là, mais. Checker vos références avant. Enfin, tu vois, il y a une histoire de mode quand même. Il y a des trucs
bien
qui
sûr.
Sont faits avant. Il y a des grands créateurs qui. Et du coup, c'est vrai que. J'ai l'impression que de moins en moins, en tout cas, il y a ce truc d'archive de ça, ça vient de là, ça, c'est. Mmh. Tu vois. Et je trouve que c'est trop important quand même. C'est trop important parce
après,
que.
Après, il y a des comptes qui le font maintenant
oui.
sur Instagram.
Ah, bah oui.
Clairement. Si t'as envie de savoir en vrai,
oui.
tu peux trouver. Mais...
Inside Mood.
Ouais,
je crois
Inside
que...
Mood.
Tu vois, il y a
ouais.
plein de choses comme ça, mais c'est vrai que des fois, tu vois, quand je vois des magazines qui se disent de mode ou quoi.
Ouais.
Enfin, tu vois, en fait, tu dois digérer plein d'infos dans la journée très rapidement, donc il faut vite donner l'info, mais pas forcément, tu vois, expliquer un peu derrière.
Ouais, et puis il faut toucher le public le plus large possible. Et le public large, il va pas spécialement aller diguer des trucs hyper niches, tu vois.
Ouais.
Où ils s'en foutent de savoir d'où ça vient, pourquoi, comment.
Voilà. Et en fait, tu vois, souvent je reçois des messages sur Insta de jeunes personnes, tu vois, qui veulent faire mon taf et tout. Et quand je leur explique un peu mon parcours, les difficultés que tu rencontres, etc., ils sont là, ah ouais. Parce qu'en fait.
Ça a l'air hyper simple vu de l'extérieur.
Ouais, déjà, toi, tu montres ce que tu as envie de montrer.
Ouais,
et
ouais.
de deux, avec Insta, aujourd'hui, tout le monde peut devenir.
Eh oui.
DA, photographe. Enfin,
ouais.
tu vois.
Dans sa tête.
Ouais.
Dans sa bio,
ouais,
dans sa bio Instagram.
C'est clair. Mais.
Tant qu'il n'y a pas une marque qui te paye pour faire ton travail.
Ouais, mais il y en a qui se sont déclarés
ouais.
du jour au lendemain et t'as des marques. Et...
Parfois ça marche, hein.
Vu que c'est des gens proclamés. Bah, tu sais.
Fake it till you make it, hein, c'est ça le truc.
Ouais, merci. de ouf. Donc, franchement, respect. Ouais. Hein,
non, on respecte le sol de tout le monde.
Tu vois, mais c'est vrai que toi, des fois, t'es un peu aigri parce que tu dis, purée, J'ai galéré, j'ai payé une école, j'ai vraiment fait les trucs dans les règles de l'art, entre guillemets.
Ouais.
Et t'as l'impression, en tout cas, que tu vois, t'as des gens qui, parce qu'ils ont eu des abonnés, etc., ils arrivent comme ça, tu vois. Donc ça, ça a été un peu aussi dur, mais je me suis dit, mais arrête de faire les gris, en fait.
Oui, c'est des nouvelles règles.
C'est des nouvelles règles.
Faut
s'adapter. Ça donne plus de chance à plein de gens.
Moi, j'ai lancé mon TikTok. Allez, deuxième instant pour
moi. Oh putain.
Moi, le mien, je pose des ratons laveurs et tout.
C'est mon premier million de vues.
Ah ouais?
Ouais.
Purée.
Et ouais.
Tu m'apprendras. Hein, parce
ah non, mais je t'apprends rien, j'ai quelqu'un qui le fait.
Tu me donneras son contact. Mais
je voulais pas y aller, hein, pourtant, mais au bout d'un moment, il faut...
T'es obligé, maintenant, ça passe beaucoup par là. Enfin, moi, aujourd'hui, je travaille du coup chez Views, qui est une agence et un média.
Qu'on adore, on embrasse l'équipe, d'ailleurs.
Ah, ça me fait plaisir.
Comment tu te retrouves chez Views, du coup?
Oui, alors, je me retrouve chez Views parce que, pendant mon moment Black Rainbow, c'est là où je commence à faire de la direction artistique. Je suis frustrée, justement, de faire que du stylisme, où je me dis... j'habille, entre guillemets, des fois, juste des gens, et j'aurais peut-être pas fait ce casting, j'aurais peut-être pas pris ce photographe, j'aurais peut-être pas fait cette DA et tout. Et en fait, naturellement, avec des photographes avec qui je m'entendais bien, on s'est fait des séries où je faisais la DA, on pensait les concepts, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, enfin, c'est trop bien ce truc 360, de choisir ton équipe, les gens avec qui tu veux travailler et tout. Enfin, c'est vraiment hyper satisfaisant. Donc là, je me suis dit... C'est vraiment ça là que j'ai envie de développer, peut-être laisser un peu le stylisme de côté.
En c'est secondaire peut-être, parce que gères le stylisme sur tes shoots aussi du coup, quand tu fais la vidéo.
C'est ça, mais en tout cas le côté pub, etc., j'avais laissé un peu de côté pour justement faire des séries vraiment en tant que DA. Donc ma première série c'était avec Ojos comme photographe, c'était un shoot trop cool pour la Coupe du Monde féminine
avec
Nike.
Je crois que je vois la photo.
Ouais.
Elle est sublime cette photo.
Tu vois,
ouais, je vois très bien.
J'aimais trop. Ouais. C'était trop bien parce que vraiment là, je revenais à mes premiers amours de mélanger, tu vois, casser les codes, de mettre du maillot de foot avec des énormes jupes en tulle, des bustiers à strass et tout. Mais j'avais trop aimé cette série.
Ouais,
et du coup, c'était ma première en DA. Et du coup, après, j'ai continué, etc. Et donc, je fais du free pendant quelques années. Et après le Covid, du coup, moi, j'avais déjà travaillé pour Views en tant que styliste, en free,
ponctuellement.
Donc, je connaissais, et en fait, Salim, qui est chez Views, on travaillait ensemble chez Black Rainbow.
Tout à fait.
Voilà, et du coup, à un moment, ils sont arrivés à Paris, parce qu'ils viennent de Lyon à la base, et c'est ça que j'aime trop dans l'histoire, justement, tu vois, c'est ce truc de, c'est des valeurs communes, tu vois, tu
en province.
Voilà, et tu montes à Paris, et enfin, c'est pas facile quand même, parce que t'as plein de médias autour de toi,
C'est vraiment le média challenger,
tu vois,
c'est très beau ce qu'ils ont réussi à en faire.
Donc, moi, niveau parcours et tout, j'étais hyper admirative, tu vois, et j'aimais trop ça, tu vois, les gens qui ont de la niaque. Et
c'était tellement quali, dès le départ, je trouve ce qui les a fait se remarquer, c'est que c'était hyper quali, il y avait une super DA, tu reconnaissais tout de suite... Et ils se sont pas mis là en faisant à moitié, quoi.
Ouais. Et en plus, tu vois, moi, ça a été... J'ai toujours travaillé avec des gens plus âgés que moi. Tu vois, toujours au WAD, au L, toujours des gens plus âgés que moi. Et là, c'était un peu la première fois où je travaillais avec des gens plus jeunes que moi, qui ont monté, tu vois, un média, une agence après par la suite. Et j'étais là, mais c'est génial, en fait, tu vois.
C'est notre énergie.
C'est notre énergie, c'est vraiment une autre niaque. Ouais. Donc,
c'est un autre type de structure aussi, c'est plus horizontal. Il y a moins de hiérarchie, de validation.
Complètement.
Chacun peut trouver un peu sa place.
Exactement. Et c'est ça qui m'a donné envie. Donc, post-Covid et tout, on décide qu'on va travailler ensemble en DA et en stylisme. Ils ont développé du coup une partie agence. Et il y a la partie média aussi également à côté. Et en fait, du coup, en peu de temps, donc là, ça fait quoi, un an et demi à peu près, que je suis intégrée là-bas. Et l'évolution, déjà, un an et demi, c'est trop bien. tu vois, on a déjà fait des séries mode et tout, parce que vraiment, enfin, pour moi, c'est un côté, tu vois, que j'ai vraiment envie de développer là-bas, parce qu'on travaille avec plein de marques de sable, de textile et tout. Mm. Et on, dans la partie média, tu vois, t'as toujours des news liées à la mode, liées au cinéma, etc., qui sont traitées. Donc, ça fait partie de l'ADN, mais c'est ça le challenge, c'est qu'à la base, c'est pas un magazine de mode. Tu vois, et moi c'est ça que j'ai envie de faire là-bas, pas que ça devienne un magazine de mode, mais que,
de créer,
tu vois,
un pont entre la culture et la
voilà,
mode,
et surtout
comme le monde, en fait, en vrai.
Exactement,
mais en digital, pour le coup.
Ouais. Et en fait au début tu vois, les marques, elles sont un peu, enfin, tu connais, c'est toujours très normé. Les marques
déjà
travaillent
digital,
voilà, avec les magazines qui connaissent, qui annoncent en priorité. Puis à côté, tu as tellement tous les événements où du coup, c'est compliqué des fois d'avoir des looks, parce que tu as le Met Gala, tu as le Festival de Cannes, tu as les Fashion Week et tout. Donc, et là, je suis hyper contente, parce que quand je regarde en arrière au début, les premières séries et tout, ben, tu vois, maintenant, on a des super marques qui nous font confiance, quoi. Et ça fait trop plaisir. Parce que...
Ouais, de devoir développer ces relations, c'est
trop bien. Et tu vois, c'est ça que j'aime là-bas, c'est que t'as une capacité d'évolution. Enfin, tu vois, je vais toujours sortir de ma zone de confort, parce qu'on veut... Tu vois, on a plein de projets, plein d'objectifs et tout. Et j'ai trop envie de développer ça
avec eux,
tu vois. Enfin, des fois, tu te dis... Enfin, j'avais eu, tu vois, des opportunités pour travailler dans des magazines de la presse institutionnelle. Ouais. Et t'es là en mode, bah, ce magazine, en fait, c'est mon goal de petite fille.
Parce que
j'ai ma place. Et tu vois, on est une.
Et tu construis un truc en plus, d'aller dans l'équipe de quelqu'un, quoi.
C'est ça, où t'es noyé avec plein d'autres DA et stylistes, où c'est hyper dur de.
D'émerger,
en fait, tu vois. Donc, et du coup, je sais que là, tu vois, je coche des cases, tu vois, de plus en plus. Et
ouais,
là, ce truc de même travailler, tu vois, avec des gens plus jeunes que moi, de pouvoir les former, leur raconter mon expérience dans d'autres agences, etc. En fait, je me rends compte que ça, tu vois, ça me fait kiffer.
Donc, ouais, c'est une belle histoire, ça.
Ouais. C'est cool.
Et c'est challengeant aussi, souvent, d'être avec des gens plus jeunes. Je vois, par exemple, aux gens de mon équipe, où moi j'ai des gens qui sont plus jeunes que moi, ils n'ont pas la même vision que toi sur plein de choses. Donc ça te permet aussi de
rester
au-delà
éveillé,
de... Ouais, exactement.
Ah ouais. Ah oui, parce que des fois...
Rester jeune.
Et de confronter à des idées qui sont différentes des tiennes, tu vois.
Ouais. Complètement, oui. Et puis
des visions.
Complètement. Et c'est vrai que des fois, tu sais, ça va tellement vite avec TikTok et tout... mais j'ai quel âge, en fait?
Ouais, tu passes à côté de trucs.
Tu vois? Et
c'est bien, je trouve, ces échanges où toi, t'apprends le temps long à des personnes qui sont plus jeunes, et t'attends le temps court et les trucs.
C'est clair. Et puis, tu vois, quand je dis, tu vois, des fois, je reçois des messages sur Insta de gens qui, ben, on leur fait croire toute la journée que si tu crois que tu claques des doigts et.
MDR, ouais.
Et tu vois, et t'as tout de suite, parce qu'on est. Éduqué à ça, et franchement, moi,
que tout est possible, que tout arrive en claquant des doigts, que tout est.
Alors que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Et des fois, vaut mieux avoir des petits objectifs qu'un énorme objectif et te prendre une immense claque qui va te.
Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr que c'est trop important d'avoir des rêves, des objectifs, des ambitions, enfin, tu vois, de l'audace, de se donner les moyens, mais en fait. T'as ce truc où t'as l'impression que tout le monde a confiance en lui, tout le monde est hyper bien dans sa life, etc., etc. Mais c'est pas le cas déjà. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens de ce milieu qui ont le syndrome de l'imposteur. Et c'est dur, tu vois. Genre, moi, ça fait pas longtemps, tu vois, que je me dis mais j'aime bien cette série. T'as fait. C'est dur.
D'être fier de ce
taf. Tu sais, dès que je rends un truc, je suis en mode. Toujours ce doute, je suis pas 100% satisfaite, tu vois.
C'est les créatifs en règle générale, ça, la musique, c'est pareil. Enfin,
ouais.
C'est dur de.
Je me dis, est-ce qu'un jour j'aurai un projet où je serai là T'as ouais, d'être ça, quoi.
Mais tu vois, avec le recul, t'arrives à le trouver. Quand tu me parles de ta première série DA et tout, t'arrives à avoir un œil bienveillant sur ce que t'as fait.
Et en fait, ce truc de mettre des objectifs en mode... dans mon prochain shoot, en termes de look, faut que je sois à ce niveau-là. Faut que machin, etc. Hop, du coup, ça te donne confiance plutôt que d'avoir un objectif, entre guillemets, qui prend plus de temps, etc. Et de se décourager.
Ouais.
Tu vois, ça...
Ouais,
faut se féliciter, tu vois. Faut être... faut être bienveillant envers soi-même et pas trop dur, parce que déjà c'est dur quoi, le monde est...
Déjà la vie c'est dur, le monde est méchant, voilà, tu vois.
Le monde est méchant, méchant. Ouais.
Mais non, j'ai de la chance et je suis quand même fière de moi, tu vois, parce que je me suis, enfin tu vois, je sais que j'ai été courageuse, tu vois, j'ai pas lâché, il y avait plein de moments où j'avais envie de lâcher, tu vois.
Ouais.
Tu te décourages, tu...
C'est ça qui fait la différence.
Tu doutes et tout.
Tu doutes.
C'est de pas lâcher.
Tu te dis, je me fais pas de thunes. Ouais. Ça fait je sais pas combien d'années que je me fais pas de thunes, je galère à payer mon loyer et tout. C'est quoi la suite en fait et tout, tu vois.
Ouais.
Et en fait...
Ouais, dans une industrie où t'as l'impression que tout le monde a la fast life et habillé des pieds à la c'est tête en grande marque, en tout. Machin.
Ouais, puis en fait, tu te dis, moi, mon rêve, c'est ça, mais est-ce que t'es prêt pour ce rêve-là de vivre toutes les étapes aussi de ce qu'il faut, tu vois, pour construire ton truc. Donc galérer, te retrouver avec des gens qui sont pas forcément bienveillants, des gens qui sont envieux, des gens qui... Tu vois. Mais...
Ouais, faut garder le cap.
Faut garder le cap. Et après, c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Tu vois, moi, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de...
Te retirer.
De me retirer et tout. C'est pour ça que, tu vois, je suis de plus en plus de retour dans le sud depuis quelques années, parce qu'il y a eu un moment où j'allais l'été, à Noël, et c'est tout. Et en fait, de me reconnecter avec ça et tout, ça a été hyper aussi salvateur.
Ouais.
Tu vois, faut des fois sortir de ce truc-là. Enfin... J'ai plein d'amis dans ce milieu, mais j'ai aussi plein d'amis qui sont pas du tout dans ce milieu.
Ça.
Et c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est hyper important.
Ouais, c'est vital.
Ouais.
Sinon, tu gardes les pieds sur terre.
Tu peux vite aussi prendre la grosse tête. Des fois, on se rend pas compte, mais
ça te déconnecte. Hein.
Ça déconnecte, tu vois. Des fois, enfin, moi, je me souviens mes premiers défilés. J'étais en mode, je pleurais à chaque fois. Tellement j'étais émue d'être là, de me dire, mais meuf, t'as un défilé pendant la Fashion Week de Paris. Enfin, c'est un truc de barge, tu vois. Et après, c'est là en mode, oh putain, j'ai un défilé.
J'allais dans le 16e.
Et t'es là, waouh, je suis devenue cette personne-là.
Ma caricature.
Tu vois. Et t'es là, non, mais en vrai, meuf, là, tu fais ton métier de rêve, t'as coché plein de cases. Tu peux travailler aujourd'hui avec des gens avec que tu choisis de travailler, parce que c'est ça qui est
c'est un vrai luxe.
Trop important, tu vois, c'est qu'aujourd'hui je travaille avec des gens que j'apprécie, que tu vois, donc c'est hyper satisfaisant quoi. C'est top.
Ouais.
Et c'est trop important.
J'en reviens juste rapidement à la discussion que tu as eu avec Edem, qui je pense a été un petit déclencheur. Est-ce que depuis tu as l'impression d'avoir trouvé ta patte, ta marque, enfin, tu vois, on parle souvent pour que ce soit les photographes, les stylistes et tout, d'avoir quelque chose qui t'appartient, qui fait qu'on vient te chercher pour ça.
Ouais. Ben là, c'est vrai que ces dernières années, y a eu cette série, du coup, tu vois, avec Nike, dont je parlais tout à l'heure, qui a été vraiment...
Un petit coup de projecteur aussi.
De ouf, parce qu'elle a vachement tourné, je m'y attendais pas. Et du coup, on m'appelait pour ça. Tu vois, on m'envoyait des moodboards où il y avait mes photos dedans et tout, donc j'étais hyper contente, tu vois, j'étais là, mais voilà, enfin tu vois, c'est ça que je voulais, c'est que parce que tu vois, t'as dans le stylisme, t'as plein de métiers entre guillemets, tu vois. T'as des personnes qui vont faire styliste pour des célébrités.
Toi, t'as jamais fait ça, célébrité, clip?
J'ai fait clip artiste, pas mal, mais c'est pas mon... C'est trop compliqué. En fait, si j'étais en discussion directe avec l'artiste, très bien, mais en fait, t'as le label, le machin.
Je suis pas si sûre.
Non, mais tu vois, par exemple, j'avais bossé avec Sheila.
Ouais.
Et
très chouette, elle
est facile. Vois, c'est hyper facilitant, la meuf elle est hyper chill. Ouais. Enfin, tu vois, t'as pas 10 000 intermédiaires, tu te comprends. Et c'était ma meilleure expérience humainement, on va dire, avec un artiste, tu vois. Et c'est vrai que déjà, j'étais un peu trauma des maisons de disques, mais vraiment, des fois, t'étais là, tu bosses en mode l'artiste, elle s'est pas sentie à l'aise dans les looks au fitting. Tu vois que la meuf, elle a posté tous tes looks sur Insta, des fittings. Et vu qu'ils ont encore les sacs de shopping, en mode, on peut les garder quand même pour le shoot de demain, mais au cas où, mais... Et t'es là, mais...
C'est quoi, du coup,
en fait,
t'es pas à l'aise,
pas me payer,
ou c'est quoi?
J'ai fait tout le taf et... Non, mais c'est des questions d'argent et
tout.
Tu vois?
Ouais.
Et t'as des trucs comme ça, tu vois, où t'es là, t'as 10 000 visions différentes. T'as toi ta vision en tant que styliste, t'as la vision de l'artiste, t'as son manager, t'as son disque, t'as son DA, etc. Et c'est vrai que ça me faisait chier, tu vois.
Mmh.
Parce que j'étais très frustrée, quoi. Ouais. Et là, en tout cas, tu vois, à part si un fit humain, on va dire.
Ouais.
Oui, mais sinon. Non, je fais plus.
Si c'est pour habiller Jules, c'est comment?
Ah oui, mais Jules, mais oui, bien sûr, toujours. Toujours.
On
je t'embrasse.
Dit que t'étais une très grande fan de Jules.
Ah j'ai ouais. balancé direct.
Ah ouais. J'assume, total. Non, en fait, ce mec, ce que j'aime trop, c'est que, tu vois, il est lui, quoi. Et en fait, déjà, je trouve que ça fait du bien dans le rap d'avoir une personne qui te parle pas forcément de grosses voitures, de meufs, dans des piscines et tout, tu vois, qui parle plus de trucs simples, on va dire.
Ouais.
Moi, ça, tu vois, j'étais là, mais ça fait du bien. Et puis lui, moi, j'admire les bosseurs, tu vois, les gens qui travaillent dur.
Ouais, lui, c'est un putain de bosseur,
voilà.
Pour le coup.
Donc ça, déjà, tu vois, j'admire énormément. J'ai eu l'occasion de le rencontrer rapidement. Le mec était adorable.
Ouais, très
donc,
sympa.
Très sympa, hyper, pas hyper timide, hyper, tu vois, enfin...
Tranquille, quoi.
Ouais, pas ce que t'attends de forcément un rappeur, entre guillemets. Et surtout, tu vois, ce qu'il a apporté, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas musicalement, c'est les goûts et les couleurs et je l'entends. Mais tu vois, l'influence qu'il a eue...
Ça, c'est indéniable. Comme tu dis que t'aimes pas, t'es obligé
tu
de
vois,
respecter
c'est...
ça.
C'est dingue. Et puis, tu vois, la lumière aussi qu'il a remis aussi sur Marseille.
Ah,
grave. C'est votre deuxième ambassadeur. Je me demande si c'est pas même le premier, en vrai.
Ouais, bah t'as Zizou quand même.
Ouais.
On est sur des sujets. On sent que c'est sérieux, là. Attention à ce que tu dis, c'est...
Non, mais oui, mais tu vois, lui, enfin... Et c'est ça que... Bon, le lien, là, la transition, Jacquemus... Le seul, mon petit regret avec Jacquemus, c'est que je trouve que c'est un créatif incroyable. Il a un storytelling de fou. Mmh. Genre, vraiment, c'est dingue.
Ouais.
En revanche, moi, ce qui m'a un peu... et comme beaucoup de sudistes, en vrai, enfin en tout cas du côté Marseille, c'est qu'à un moment, Marseille était très, très, très à la mode, après Covid, etc.
Quand les gens ont découvert que Marseille était une ville...
sur la carte,
presque, voilà. Donc il y avait tout le monde, on n'avait plus accès à nos plages. Ouais. Et en fait, lui, il faisait toute sa com' sur Marseille, sauf qu'il parlait d'un Marseille, c'est pas qu'il n'existe pas.
Non, mais c'est ultra romancé.
Très romancé. Ah, et oui. Après, tu te prenais des trucs en mode, ouais, mais Jacquemus, il a dit qu'il fallait aller là, mais en fait, Marseille était là. Enfin, tu sais, tout le temps, des gens, ils crachaient sur... Tu vois, ouais. Une ville de notre région qui... Et du coup, ça m'a trop saoulée parce que je me disais, mais en fait, j'aimerais trop... Il parle tellement de Marseille, il parle tellement du Sud et tout, mais en vrai, ok, il a mis de la lumière, son défilé, les 100 ans au Mucem, c'était incroyable et tout. Enfin, pour moi, à ce moment-là, il était à son... Ouais, pour moi, il était à son...
Ouais. Son top.
Top, c'était vraiment beau, tu vois. Genre, il y avait vraiment un truc du sens, de...
L'émotion et
voilà.
Tout.
Voilà, et c'était bien exécuté, c'était vraiment... Cali, et je trouve qu'après, dans le, si on parle vêtements purs, moi, en tout cas, j'ai, de mon point de vue, j'ai trouvé ça un peu redondant et j'aimerais qu'il se challenge un peu plus parce que c'est vrai que son image est tellement forte, c'est tellement fort tout ce qu'il arrive à faire, l'image de marque de Jacquemus, ouais. que ça doit pas être évident, du coup, d'avoir des vêtements aussi... Mais voilà. Mais du coup...
Sachant que tu fais du produit grand public aussi, en plus.
Complètement. Tu vois, donc, complètement. Mais, ouais. Mais du coup, tu vois, j'aurais aimé... Alors peut-être que c'est dans ses plans, je sais pas, mais j'aurais adoré que, tu vois, il fasse peut-être des ateliers de confection à Marseille, mais que, tu vois, il rende aussi quelque chose peut-être à la ville. Et tu vois, j'aimerais beaucoup ça de sa part, tu vois, parce que même, tu vois, quand il y a eu le café aux Galeries Lafayette et tout, bah, tu vois, je me disais, ça aurait été cool à Marseille, tu vois, ouais, j'aurais, tu vois, donc j'aimerais qu'il aille jusqu'au bout du
ouais,
truc.
Peut-être qu'il va faire un truc, hein, peut-être qu'il va faire un resto, un café,
ouais.
C'est bon,
il a fait sa plage à Saint-Tropez.
Ouais, bah, tu vois, ça, je me disais...
Dommage.
Du coup, il est plus parti côté Rivera, là, maintenant Marseille, voilà. Mais oui, tu vois, j'aurais adoré qu'il fasse un studio à Marseille. Après, peut-être qu'il en a un, et je sais pas. Hein, c'est
ouais.
C'est beau aussi, mais...
On va faire checker.
Ouais.
La colline.
Ouais, je veux pas. Mais voilà, je. Enfin, tu vois, je trouve qu'il a, ouvert, enfin, tu vois, des possibilités à plein de gens de se dire, ben moi aussi, je peux le faire, tu vois. Mm. Les gens en province, pas que du sud, tu vois.
Ouais.
Il y a eu ce truc où tu te dis, ah ouais, c'est un gars, pas forcément dans les clous, entre guillemets, et qui arrive, tu vois, ouais, à monter les échelons et tout, parce que. Enfin, ah ouais, tu vois, ses premières collections. Hein. Ouais. Et
il a été hyper malin.
Il a été
en termes de marketing,
malin.
Il est enfin, extrêmement fort.
Extrêmement fort.
Mm-mm.
Mais voilà.
Non, c'est vrai que c'est une bonne inspiration pour nos amis provinciaux.
Ouais.
Le sud en force.
Toujours le sud.
Est-ce que tu veux nous partager quelque chose d'autre? Est-ce que tu as des projets qui arrivent bientôt? Des choses que tu veux teaser un petit peu?
Bah, y a plein de projets cool, toujours. C'est ça qui est cool avec ce ouais, métier. Ouais, pas mal de choses qui vont arriver là, bah, rentrée prochaine et 2024, bah, notamment avec Views, on a plein de.
Ouais. Vous avez
plein de goals, plein de.
Views Fashion
tête.
Ou pas?
Je peux pas trop teaser.
J'étais en train d'y penser à la fin.
Mais il y a des trucs, cool qui vont se développer. Donc on travaille, sur ça, c'est trop bien.
Ouais. Vous développez pas mal de merch, non? J'ai vu qu'il y avait du coup la marque de SAP.
Complètement.
Views, Point of View, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On a une marque du coup en interne où en fait l'idée c'était vraiment d'avoir au-delà du merch classique, t-shirt.
Ouais, c'est du vrai vêtement.
C'est du vrai vêtement où t'as un vrai sourcing, des vrais. Enfin, tu vois, pour la première chemise qu'on avait fait.
J'avais discuté avec le mec, je saurais plus remettre son nom, mais.
Lucas.
Ouais,
Lucas, c'est le créateur du coup de PO Views. Et
tu sens que c'est un mec qui s'y connaît,
ouais,
quoi.
Bah lui aussi, tu vois, il a fait une école de mode, il est hyper passionné, ouais, tu vois, c'est un mec qui en veut, enfin tu vois, encore des valeurs que voilà, que j'admire. Et tu vois, la première chemise qu'on avait fait, c'était de chute du motif métallique de Paco Rabanne, tu vois. Donc il y a, enfin tu vois, il y a plein de trucs trop cool, il y a plein de trucs qui vont arriver. Là, avec Views, on a fait une collab de vêtements avec la WEC, qui est le championnat du monde d'endurance automobile. Donc là, on a fait une petite collection capsule. Donc,
okay,
il y aura plein de petites choses comme ça, cool, qui vont,
trop bien,
qui vont continuer à arriver. Donc,
on suit l'actu.
Ouais.
Trop bien. Ben, écoute, si c'est tout, on va te laisser filer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup
pour ton temps.
T'as merci à vous, c'était
tous les
cool.
Les tips, les ouais, histoires et tout.
J'espère
merci
que j'ai pas dit trop de
pas du
de bêtises.
Pas du tout. Merci beaucoup.
Merci à vous.